avez des questions, il a la main verte. Philippe Munier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, vous répond jusqu'à 10h.
Et on est ravis de le retrouver, frais comme un gardon, reposé, je l'espère, avec des vacances. C'est notre ami Philippe Munier. Bonjour Philippe.
Bonjour Yann, bonjour à tous.
Comment allez-vous Philippe?
Eh bien écoutez, très 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 bien.
Ressourcé.
Ressourcé, voilà, c'est le mot que je cherchais. Voilà.
Eh ben,
les sources, de toute façon, en ce moment, elles sont en train de se remplir, ça tombe bien. Donc c'était le mot qu'il fallait pour ce matin.
On n'est vraiment pas en peine de ce côté-là. Et d'ailleurs, vous allez nous dire si justement c'est influençant pour le jardin, si oui, comment on peut s'en prémunir, comment on fait faire des petites choses. En même temps, c'est la nature, hein, cela dit, hein, on va pas choisir. Mais est-ce qu'il y a des choses à faire justement quand il y a beaucoup d'eau comme ça?
Bah, y a surtout des choses à ne pas faire. Ah, et la première chose à ne pas faire, c'est de piétiner cette terre qui est gorgée d'eau. Ah, parce que plus on va la piétiner, plus on va chasser l'air, plus ça va faire crever, fermenter les racines, donc mourir les plantes. Donc on ne piétine pas une terre qui est détrempée. Si vraiment faut aller au potager pour aller récupérer, je sais pas, un chou de poireau, une fondue de poireau avec les coquilles de Saint-Jacques pour Noël, c'est pas mal. Hein.
Ouais,
mais
pas
bon,
mal.
Et ben là on fait attention. On met d'abord des planches sur pour pouvoir répartir le poids. Et ne pas tasser trop la terre, de façon à ce que, eh bien, dès que le temps le permettra, et surtout l'humidité le permettra, on puisse délicatement lui passer un petit coup d'outils style grelinette, etc., lui apporter un petit peu à manger, et ça repartira pour une nouvelle saison. Mais pour l'instant, surtout, si on n'a rien à faire sur la terre, eh ben, on lui fiche la paix.
Voilà.
Et puis, faites très attention, parce qu'effectivement, les terres détrempées, c'est aussi une terre qui ne colle plus aux racines des arbres, et au premier coup de vent, eh bien, l'arbre est fragilisé. Il peut tomber, donc quand il y a du vent, ne vous baladez pas dans les zones boisées. Ça serait dommage que vous ramassiez un arbre sur le coin du museau.
Je confirme. Allez, c'est parti, vos questions à Philippe au 02 99 67 35 35.
Vous avez les questions? Il a la main verte. Philippe Munier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, 02 99 67 35 35.
Des auditeurs, ravis de vous retrouver. Philippe, à l'image d'Odile que l'on rejoint à Liffré. Bonjour Odile.
Oui, bonjour.
Bonjour Odile. Dites-nous tout, comment on peut vous aider?
Alors, nous avons une serre de 6 mètres sur 4 mètres et la bâche était cassée. Donc, nous l'avons enlevée au mois de septembre-octobre et nous voulons remettre une bâche au mois de janvier-février. Mais quel conseil que vous pouvez nous donner pour remettre la terre en état?
Alors, Philippe, qu'est-ce qu'on fait?
Il y a déjà une chose, c'est que donc depuis septembre, elle est à tous les vents, c'est ça?
Voilà,
à tous les vents et surtout à toutes les pluies. Et ben c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous, parce qu'effectivement, si vous couvrez, alors peut-être pas janvier, s'il y a trop de vent, faut faire attention qu'il n'y ait pas de vent pour remettre une bâche, parce que l'idéal quand même pour mettre une bâche, pour qu'elle soit bien tendue, c'est de la mettre quand il fait chaud. Janvier, février, c'est rarement les mois les plus chauds. Donc du coup, faut vraiment choisir une journée très 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 calme pour mettre la bâche, de manière à l'attendre au mieux.
Alors sinon, on a un cerf-volant et ça sert à rien.
C'est ça, voilà. Et puis ça fait flac, flac, clac, 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 à chaque coup de vent. Et puis au bout du troisième coup de vent, la bâche redéchire. Donc c'est pas le but du jeu. Donc faites bien attention. Mais pendant ce temps-là, ce qui était intéressant pour vous, c'est que toutes les pluies, et il y en a en ce moment, ça tombe bien, eh bien elles ont remouillé la terre en profondeur, parce que sous un tunnel, la terre n'est plus mouillée en profondeur. Et souvent, les plantes en souffrent. Donc là, elle va être bien remouillée en profondeur, ce qui fait que dès que vous allez la rebâcher, eh bien vous pouvez déjà passer un bon petit coup de nettoyage. À faire un bon apport de compost, mais au niveau de l'humidité, au niveau de la teneur en eau, vous n'êtes pas embêté et les tomates, vous allez avoir certainement des tomates beaucoup plus belles que les autres années, parce qu'elles vont plonger leurs racines beaucoup plus profond pour aller chercher cette eau qui sera en train de descendre, et donc au niveau de la production, vous aurez quelque chose de beaucoup plus intéressant. Mais surtout si vous amenez du bon compost.
On met pas de fumier de mouton ou truc comme ça
Alors quand je dis compost, moi c'est personnellement tout ce qui est fumier, tombe de gazon, déchets de cuisine, des herbages, tout ça, je le composte en même temps. En fait, moi j'ai pas de moutons, mais j'ai des poules et des lapins, et donc je mélange tous les fumiers dans le compost et je laisse tout composter. L'intérêt de bien composter pendant tout l'hiver, c'est qu'au printemps, en fait, c'est toute cette matière organique, elle est déjà prête à être utilisée par les plantes très rapidement. Alors que si on met un fumier, le fumier, il faut d'abord qu'il se décompose avant d'être consommé par les plantes. Donc il vaut mieux le décomposer décomposer avant, eh ben, faut profiter de l'hiver où on n'a pas grand-chose à faire pour que ça soit la nature qui décompose les fumiers. Et comme ça, vous avez un bon compost qui est tout de suite utilisable par la terre et par les plantes.
Et Philippe, en termes de timing pour Odile, on est plutôt, on va attendre mars-avril, non ?
C'est pas une mauvaise idée, au contraire, de rebâcher assez tôt, ouais. Hein, mais par contre, faire attention que ce soit un jour très, très calme, pour pouvoir bien tendre au maximum, sachant que dès qu'il va faire chaud, elle va se détendre un petit peu, ouais. Donc il faut vraiment qu'elle soit très tendue. Mais par contre, derrière, ce sera super d'apporter justement de la bonne matière organique, le mieux décomposée possible, de façon à ce que quand il commencera à faire bon dans la serre, et dans la serre, il fait vite bon dès le 15 mars, hein, parce que ça change. Très très vite, et bien à ce moment-là on pourra tout de suite planter. Donc c'est de mettre ça en place, on va dire entre le 15 janvier et le 15 février, c'est le meilleur moment, c'est sûr, pour pouvoir derrière redémarrer une culture qui sera, je vous dis, du fait de la bonne teneur en eau du sol, qui sera super fructueuse cette année.
Et ben génial, voilà Odile, on n'a plus qu'à attendre et à y retourner. Je vous souhaite une belle journée Odile.
Merci, vous aussi.
À bientôt,
merci.
Au revoir. Nous sommes à Bréal-sous-Montfort maintenant avec Joseph. Bonjour Joseph.
Oui, bonjour France Bleu Armorique, bonjour Philippe. Voilà ma question. Nous avons des panais dans le jardin et je voudrais savoir comment les conserver pour cet hiver. Est-ce qu'il faut les laisser en terre, dans ce terrain mouillé quand même, il faut bien le dire, ou est-ce qu'on doit les sortir et de quelle façon les conserver ?
Alors, nos panais, c'est super bon, plus le panais.
Ah bah c'est délicieux. Super bon, oui. Alors, le panais, c'est pas très facile à conserver à l'extérieur. C'est l'idéal, quand on peut le faire, c'est de les garder en terre, sachant que de temps en temps, les mulots viennent prendre leur part, mais c'est pas dramatique. En général, ils prennent le haut du panais, comme le panais, c'est super long. Voilà, on a le bas. Bon, le bas, c'est le plus fin, d'accord. Mais bon, il en reste quand même. Donc, ça, c'est la première chose. Après, si vraiment vous avez le courage d'aller... vous baladez dans le jardin avec une fourche, avec cette météo un petit peu chaotique, on va dire. Effectivement, vous pouvez les arracher le plus délicatement possible. Faire attention donc à ne pas piétiner le sol, donc à vous mettre sur des planches pour pas trop compacter. Et ce que vous pouvez faire après, c'est vous les mettez dans une poubelle, une grosse poubelle de 80 litres, hein, dans laquelle vous faites des trous en bas, hein, pour qu'il y ait d'une part une aération et d'autre part que si par hasard il y a de l'humidité, qu'elle puisse s'écouler. Mm-hmm. Et puis vous, alors là, ça va être dur de trouver de la fougère sèche en ce moment, mais l'idéal c'est d'avoir de la fougère sèche. Mais si vous n'avez pas de fougère, prenez de la paille, ça marche aussi. Vous faites un lit de paille, vous mettez vos panais sans qu'ils se touchent, hein, il faut pas qu'ils se touchent, donc sur le lit de paille, vous remettez de la paille dessus. Vous remettez une couche de panais, vous remettez de la paille, vous pouvez mettre des grains rouges,
comme ça,
vous remettez de la paille, vous remettez par exemple des carottes, vous mettez de la paille, vous mettez des céleris, c'est ce que nos anciens appelaient des silos, hein, et ça se met non pas dans le garage où il fait trop chaud et souvent trop sec, mais ça peut se laisser dehors tout simplement, dans un endroit au nord par exemple, pour que ça reste bien frais, et puis au nord c'est surtout l'endroit où il y a le moins de variations de température, comme ça c'est une température bien constante, et dans ces conditions-là ils peuvent se garder tranquillement jusqu'au mois d'avril.
D'accord, tout simplement, c'est du bon sens tout ça. Voilà Joseph.
Vous parlez des mulots, mais je crois qu'en ce moment ils sont obligés de mettre du bas. Hein.
En ce moment ils ont des palmes au bout des pattes, oui, j'ai remarqué.
C'est des ornithorynques, c'est plus des mulots qu'on a.
Voilà.
C'est quand même particulièrement mouillé. Hein. Merci du conseil.
Merci à vous. Bonne fête à vous. À bientôt Joseph. Nous sommes à Béton avec Bruno. Bonjour Bruno.
Bonjour.
Bruno, comment allez-vous, tiens ?
Bien, et vous ?
Ben, ça va super bien, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider ?
Alors déjà, je fais un retour d'expérience. Ah. Je vous ai appelé il y a quelques mois pour vous demander si je pouvais planter de la rhubarbe sous un noyer.
Oui.
Donc j'ai tenté l'expérience et la rhubarbe se porte bien, elle pousse, elle donne des feuilles.
Ah non mais il est bon, hein. Il est très très bon, il est même excellent, hein. C'est pour ça qu'il est tout le temps avec nous, et heureusement pour vous, parce que si c'était moi, il n'y aurait pas de rhubarbe. Alors ça, ça marche bien, félicitations Philippe, votre badge de Castor Junior rhubarbe est acquis.
C'est bon, voilà, ça c'est fait.
Et alors Bruno, on va profiter de Philippe et de ses connaissances, comment on peut vous aider ?
Alors, moi, j'avais une question concernant des pépins d'oranger que j'ai récupérés d'oranges qui poussent en Andalousie. Mmh. Et donc, la question, c'est est-ce que si je plante ces pépins, est-ce qu'il y a des chances pour que donne un oranger qui donnera des oranges, ou est-ce qu'il faudra forcément le greffer ?
Philippe.
il y a très forte chance que ça soit la deuxième solution. Ouais. Hein, dans la plupart des cas, les orangers, les clémentiniers, les citronniers, les pomelos, les mains de Bouddha, tout ce que vous voulez, toutes les agrumes, j'oublie les kumquats et les calamondins, sont greffés. Donc si on sème une plante qui a produit sur un porte-greffe, eh bien très souvent, ce n'est pas ni la plante ni le porte-greffe qu'on a, c'est une espèce d'hybride entre les deux, ouais. Qui très souvent n'est pas très productive. Donc, quand on réussit à faire partir, et c'est assez facile, ces plantes-là en végétation, eh bien, on les greffe, et comme ça, on est sûr d'avoir vraiment quelque chose de bien à déguster. Alors, après, si vous avez récupéré ça en Andalousie, il se peut que ça soit un porte-greffe qui aime plutôt la chaleur, et comme on est en Bretagne, fois, la chaleur n'est pas là. Alors, je vous conseillerais plutôt d'investir dans un autre porte-greffe qui s'appelle le Poncirus. C'est donc une plante originaire de Chine qui résiste jusqu'à moins 23, moins 25. Donc, vous voyez, elle va apporter un capital résistance au froid très intéressant à la plante que vous grefferez dessus. Donc, investissez dans du Poncirus. Ça se trouve dans toutes les bonnes pépinières. Et sur ce Poncirus, qui est une plante très épineuse, donc qui peut se faire des très jolies barrières protectrices, mais ça fait aussi un très très bon porte-greffe pour les agrumes. Et du coup, vous aurez donc, je vous dis, un caractère résistance au froid qui sera très intéressant. Donc vous pourrez même peut-être les laisser dehors. Je n'ai pas fait attention à la commune, mais si vous êtes proche de la bordure côtière,
on est à Béton.
On est proche de Rennes, mais on n'est pas proche de la mer.
Il y a un petit peu de route, quoi. Hein, on est tranquille.
Mais bon, après,
on peut tenter le coup, ou alors vous les rentrez sous un grand abri, un grand tunnel, et puis ça leur fera du bien. Mais effectivement, en porte-greffe, sous nos climats, on choisit le Poncirus.
Voilà. D'accord.
Mais vous pouvez quand même semer vos pépins juste pour vous amuser.
Ouais, tenter l'aventure.
Ceci n'empêche pas cela.
Eh ben écoutez, et puis surtout, vous reviendrez pour un deuxième retour d'expérience. D'accord, Bruno?
D'accord.
Ça marche. À bientôt.
Merci beaucoup. Joyeuses fêtes.
Au revoir. On va aller à Montreuil-le-Gard maintenant avec notre amie Huguette. Bonjour, Huguette.
Oui, bonjour. Et bonjour à Bruno, bonjour à Philippe. Et félicitations pour vos conseils. Et moi j'ai appelé à propos d'un buis victime de la pyrale et j'ai été hospitalisée pour raison de maladie, mais j'ai une bonne surprise cette année, il a des jolies feuilles qui apparaissent. Alors qu'est-ce que je fais, sachant que il a que du bois mort, et alors est-ce qu'il faut le déplacer, le tailler, qu'est-ce qu'il faut lui faire?
Bon, alors Philippe, une fois qu'on a tout ça.
Bon, alors, si après l'attaque de pyrale, il se regarnit, il y a des feuilles qui redémarrent, toutes ces feuilles-là, c'est on va les garder au maximum, évidemment, hein, parce que c'est, faut pas oublier que c'est dans les feuilles que se fabrique la sève qui nourrit les plantes. Donc, si vous coupez les feuilles, vous empêchez votre plante de manger et du coup, elle n'est pas contente. Donc, par contre, enlever le bois mort, c'est une très bonne idée. Et ça peut se faire maintenant, sans aucun souci. Un bon sécateur bien affûté, bien désinfecté. Et là, tout ce qui est mort, tout ce qui n'a pas de feuilles, là, vous l'enlevez. Par contre, tout ce qui a des feuilles, gardez-les et vous pourrez faire une petite taille de, on va dire, de propreté, mais une petite mise en forme, plutôt vers fin février, début mars, hein, quand les feuilles se seront bien endurcies, puis que vous verrez qu'il y en a d'autres qui arrivent derrière. À ce moment-là, vous pourrez faire une petite taille, mais pour l'instant, vous enlevez que le bois mort et vous gardez toutes les feuilles et ça sera très bien pour cet hiver.
Et puis, on le laisse vivre en attendant.
Voilà.
Hein, je le garde sur le même endroit où il
est. Le déplacer, surtout pas, ça sera un stress de trop.
Donc,
si vous voulez le déplacer, faites-le plutôt l'année prochaine. Laissez-le se requinquer un petit peu. Et puis, pendant tout l'été, vous ferez très attention à ce que les pyrales ne reviennent pas casser la croûte.
Voilà, tout simplement.
Exactement. Mais si je lui mets un voile de protection dessus après, une fois taillé, est-ce que j'ai des chances est-ce que je lui donne des chances ou au contraire?
Alors, De laisser un voile en permanence, c'est pas une bonne idée. Par contre, de faire donc très attention, de surveiller, de contrôler tous les jours, c'est pas dur, ça prend 15 secondes. On écarte le buis, on regarde, est-ce qu'il y a des chenilles? Non, il y en a pas. Eh ben, tant mieux. Est-ce qu'il y en a? Bah oui, se fait quelque chose tout de suite, immédiatement. Le plus simple étant simplement de secouer le buis pour qu'elle tombe, hein, ou de les ramasser et de les ramasser, de les donner aux poules, ou aux poules du voisin si vous n'avez pas de poules. Et puis ça va très très vite. Si vous laissez un voile en permanence, vous risquez d'oublier de le soulever, et si la pirale a réussi à passer sous le voile, ça sera la catastrophe sous le voile. Donc il vaut mieux le laisser à l'air libre, et puis le contrôler tous les jours par contre.
Eh ben voilà, merci Huguette en tout cas de votre question. Vous surveillez bien ça et vous nous donnez des nouvelles. Belle journée à Montreuil-le-Gap, puis plein de bonnes choses pour vous et la santé évidemment pour cette nouvelle année qui s'annonce. On va se retrouver dans quelques minutes sur France Bleu Armorique avec de nouveau vos questions pour notre ami Philippe Munier, pardon. Vous nous appelez au 02 99 67 35 35 02 99 67 35 35. Bernard Lavillier pour vous accompagner au cœur de votre matinée sur France Bleu Armorique. On the road again. Et on parle jardinage. Notre expert, Philippe Munier, jusqu'à 10h avec vous.
Nous étions jeunes et larges au dépôt, bandits joyeux, insolents et drôles. On attendait que la mort nous frôle. On the road again, again. On the road again.
Lavillier sur France Bleu Armorique, On the Road Again.
En partenariat avec TF1 et Le Parisien, France Bleu présente une première mondiale. Le Lac des Cygnes XX Live. le ballet le plus joué au monde dans une version monumentale. Le lac des Cygnes, XX Live, 500 mètres carrés de décors dynamiques. Plus de 100 artistes du Saint-Pétersbourg Ballet Théâtre autour de l'étoile Irina Kolesnikova et Tchaïkovski, raconté par Franck Ferrand. Le lac des Cygnes, XX Live, le ballet événement, les 3 et 4 juillet au Stade Jean-Bouin à Paris. Billets disponibles dès maintenant dans les points de vente habituels. Un événement France Bleu. Toutes les infos sur francebleu.fr.
Pour Noël, offrez un livre XO.
Après Le Cri et Complot, L'île du diable de Nicolas Beuglay. Quand la vengeance est affaire de mémoire, un thriller palpitant.
XO, lire pour le plaisir.
Pour Noël, offrez un livre XO.
Donne-moi des ailes de Nicolas Vanier, un roman magnifique pour voler avec les oiseaux. Un film, un événement.
XO, lire pour le plaisir.
Vous avez les questions ? Il a la main verte. Philippe Munier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, vous répond jusqu'à 10h.
Et vous en avez de la chance, il est avec nous, Philippe, et il peut répondre à vos questions, vos angoisses en matière de plantes et de jardin. C'est vrai que parfois, on ne sait pas vers qui se tourner. Ben voilà, consultation gratuite sur France Bleu Armorique. Vous nous appelez maintenant avec vos questions au 02 99 67 35 35. Et comme Bruno nous l'a dit tout à l'heure, en plus, ça marche, on le sait que ça marche, c'est pour ça qu'on est toujours là. Colette est avec nous, elle a composé ce numéro, je vous invite à le faire également si vous avez des questions pour Philippe. Bonjour Colette.
Oui, bonjour.
Nous sommes à Notre-Dame-du-Guildhall avec vous.
Oui.
Et alors, dites-nous tout, comment Philippe peut-il vous aider?
Il s'agit de mon citronnier qui se trouve actuellement dans notre véranda. Mmh. Et tous les jours, je m'aperçois que ses feuilles sont mangées. J'enlève la feuille, elle est enroulée, ça fait comme une toile d'araignée. À l'intérieur, il y a une minuscule chenille. Elle fait peut-être 2 cm, mais alors fine comme... je sais pas comment vous dire. Et bon, tous les jours, je fais la chasse, mais j'arrive pas à m'en débarrasser.
Et alors, je tente un truc, mais vraiment totalement au hasard, parce que juste le nom me plaît bien. C'est la cochenille, Philippe, ou pas?
Non.
C'est le garçon qui a sorti toute sa science en une seule fois. Voilà. Et maintenant, je passe la main à Philippe qui, lui, va vous répondre.
Alors, je vais vous donner...
Bonjour Philippe.
Bonjour. Alors, en fait, c'est cette petite chenille, vu qu'elle roule la feuille, hein, c'est pour Yann. Hein,
je fais un petit peu
de formation.
Mais complètement. Formation continue.
Pas trop vite, hein. Donc, comme ça roule la feuille comme une cigarette ou comme un cigare, on les appelle les chenilles cigarières.
D'accord.
Hein, voilà. Okay. Vous saurez, prochaine fois, feuille roulée égale chenille cigarière. Voilà. Et pas cochenille. Donc, c'est toujours chenille, hein, quand même.
Il avait
moitié bon, quand même. Ouais. Donc, en fait, vous avez quelque part dans la véranda un petit insecte qui s'amuse à venir pondre. Alors, des chenilles cigarières, il y en a plusieurs, hein, donc je ne peux pas vous dire, tiens, c'est celle-là absolument. Il y en a une dans la véranda.
Elle fait à peu près 2 cm, mais alors très très fine. Hein. Mais vert, la même couleur que la feuille du citronnier.
Ouais. Alors. Le gros problème, l'idéal, ça serait de pouvoir trouver l'adulte, la maman, celle qui vient pondre ses œufs sur les feuilles du citronnier, et la chenille, après, elle fait ça, elle roule la feuille. Donc, il faudrait savoir où est maman. Alors, ce que vous pouvez faire éventuellement, c'est, alors, évidemment, je vais pas vous conseiller de prendre des produits que je réprouve, mais simplement de pulvériser de l'eau avec un tout petit peu de citron, hein, vraiment très très peu de citron. Grosso modo, vous mettez un demi-jus de citron pour un litre d'eau, hein, et vous pulvérisez partout dans la véranda, dans les coins les plus... Alors le citron, ça va piquer l'adulte, donc si vous le trouvez, vous le tuez, comme ça vous n'aurez plus de chenilles qui vous enquiquineront dans le citronnier, et le citronnier pourra continuer à se développer tranquillement. Alors ça, c'est pour trouver la maman. Après, les œufs qui ont été pondus, ils vont continuer effectivement de faire des petites feuilles roulées, comme vous faites, c'est très bien, donc de faire la chasse tous les matins, comme ça vous êtes sûr de les prendre toutes jeunes, toutes fraîches, et d'empêcher la chenille de se développer et de casser la croûte, parce qu'après elle va manger l'intérieur de la feuille, donc c'est pas le but du jeu.
Et ça va redevenir une maman aussi, donc c'est un truc sans fin.
C'est ça le but du jeu. Le risque, c'est que ça puisse devenir un papa et une maman, et que ça refasse des petits partout. Oui, c'est pas une bonne idée. Ouais. Donc il faut effectivement lutter tous les jours, chercher les feuilles roulées, les dérouler, tuer la petite bébête, et puis le problème est vite résolu, surtout dans le jus véranda, et puis à la saison à laquelle on est. ils sont plus très très actifs, hein, les jours sont courts, même si la véranda est peut-être à bonne température, les jours sont beaucoup plus courts, donc les bestioles sont beaucoup moins actives, et donc de pouvoir les oxyre maintenant, c'est le mieux. Et puis faire bien attention par contre, parce que pour les plantes aussi, c'est une période qui est un petit peu difficile, parce qu'elles n'ont pas assez de lumière pour se développer correctement, donc bien surveiller de l'arrosage, mais pas trop, surtout pour le citronnier, il faut toujours que ce soit frais, mais jamais détrempé, et jamais desséché évidemment, et puis de faire attention à ce qu'il ne fasse pas trop chaud, hein, dans la véranda. Il faut vraiment essayer de limiter la chaleur au maximum à 14-15 degrés, c'est le maximum pour un citronnier pendant l'hiver, comme ça ça lui permet de bien se reposer, de bien se préparer, et ce qui fait que dès que les chaleurs vont revenir, souvent c'est à partir, on le disait tout à l'heure, hein, à partir de fin février, début mars, ça remonte très vite dans les vérandas et dans les serres, et là à ce moment-là, ça permettra à la plante qui s'est bien reposée pendant l'hiver de donner le maximum d'elle-même, et ça permettra de redémarrer les floraisons et les maturations des citrons, et comme ça, ça permet de faire plein de trucs avec les citrons.
Et ben voilà, tout simplement.
Je répète, vous m'avez bien dit un demi jus de citron dans un litre d'eau. Et
voilà, absolument. Et vous pulvérisez sur tous les endroits où peut se cacher un petit insecte. Hein, c'est pas sur les feuilles du citronnier. Hein, c'est pour tuer c'est pour oxyre la maman et en tout cas l'obliger à s'envoler devant vous et que vous puissiez le.
Et
plaf. Voilà, exactement. On prend un truc à mouche là et plaf. Non mais alors.
Non mais dites donc, c'est fini
c'est
tout
qui
ça.
Commande.
Voilà. Et puis après vous continuez le jus de citron dans l'eau, vous en buvez un verre pour le foie tous les matins et voilà. Ça, c'est le conseil santé du jour. Bon, et ben écoutez. Colette, je vous souhaite une bonne chasse au citron et puis voilà, en attendant dérouler les petites feuilles, pas mal comme activité. À bientôt Colette. Au revoir.
Au revoir.
Nous avons Catherine également avec nous qui a composé le 02 99 67 35 35 pour poser une question à Philippe. Vous pouvez faire la même chose. Nous sommes à Renac avec vous Catherine. Bonjour.
Oui, bonjour.
Dites-nous tout, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous
aider? Alors, j'ai un Diefenbachia. Depuis 2-3 ans là, qui tient la route, mais en même temps il développe tout le temps ses feuilles sur l'extérieur, le bord de la feuille, comment dire, ça dessèche quoi, ça s'enroule. Et des fois les nouvelles poussent aussi, donc du coup la plante ne grandit pas plus vraiment. J'ai déjà changé le terreau, changé de place, et à l'intérieur aussi des feuilles, des fois ça fait des taches marron. Voilà.
Alors, pour toutes les plantes d'intérieur, dès qu'on a des bordures brûlées ou les pointes brûlées, il faut immédiatement penser coup de soleil. Et même en mois de décembre, une plante tropicale peut attraper un coup de soleil parce qu'elle est trop à la lumière. Les plantes d'appartement sont toutes des plantes tropicales d'ombre. C'est pour ça qu'elles poussent bien dans nos appartements, parce qu'il y a moins de lumière dans une maison que dehors. Donc, si vous les mettez face à la baie vitrée du salon, il peut y avoir des excédents de lumière, et même pour une lumière d'hiver, ça peut provoquer ce genre de choses. Donc dès qu'on a un bord brûlé, une pointe brûlée, c'est immédiatement, on se dit, il y a trop de lumière sur ma plante, donc on s'arrange juste à mettre un petit voilage, simplement un petit voile, un petit coton, un petit rideau tout fin, entre la plante et puis la baie vitrée, et ça suffit à résoudre le problème, et comme ça vous n'avez plus des feuilles qui sont moches, et effectivement une plante d'ombre, quand elle a trop de lumière, elle se développe moins bien, et c'est pour ça que les petites feuilles restent trop petites, se développent mal, tâches, etc. Parce qu'effectivement, elles sont dans des mauvaises conditions de développement. Donc je vous dis simplement un petit voilage, ou alors si vous avez un endroit
un peu moins éclairé,
il faut beaucoup de lumière, mais pas de soleil direct, pas de lumière directe. L'idéal, par exemple, pour les plantes d'intérieur,
c'est un peu plus éloigné des fenêtres,
c'est
quoi.
Ça, ou alors la lumière du nord. C'est, des fois, dans les maisons, on a un puits de lumière qui très souvent est orienté au nord ou à l'est. Et bien ça fait des puits de lumière qui sont très bons pour les plantes vertes, les plantes d'intérieur. Donc quand on a ça, c'est génial. On met les plantes là-bas. Et puis sinon, on met un petit voile entre les deux. Et puis c'est reparti.
Et ben voilà Catherine, tout simplement. C'est vrai qu'on a tendance à vouloir toujours mettre au soleil les plantes. Et ça dépend lesquelles. Ça dépend
les plantes d'ombre.
Ouais, tout simplement. Merci Catherine. Très belle journée à Renac.
Au revoir.
À bientôt, au revoir. 02 99 67 35 35 pour poser vos questions à notre ami. Nous avons Michel qui est à Baden. Bonjour Michel.
Bonjour, alors Michel, c'est Jean de mon mari, mais enfin, c'est pas grave.
D'accord.
Oui, donc...
Et vous, alors, attendez.
Et Michel, donc, alors, la question est la suivante. Nous avons des rhododendrons, ouais. Dont les boutons à fleurs...
Ouais, à fleurs.
Noircissent et donc et avortent.
D'accord, bon. Et juste pour qu'on fasse connaissance, qu'on n'est pas des bêtes non plus, oui. Votre prénom, c'est comment?
Alors, le prénom de mon mari, le non. Mien, c'est oui. Yvonne.
Yvonne, voilà, bonjour Yvonne.
Bonjour. Alors,
Yvonne, avec cette question de boutons, de rhododendrons, dites donc, qui ont du mal à survivre, Philippe.
Bah oui, ça s'appelle la maladie du bouton noir, donc vous voyez, ça tombe
bien.
Bien
son nom.
Alors, c'est pas vraiment une maladie. Le problème, c'est que vous avez des petites bébêtes.
Encore.
Alors, en fait, oui, ça commence souvent comme ça. Ouais. Hein. Alors, il peut y avoir plusieurs choses. Hein. Soit c'est directement une bébête qui vient pondre ses petits, donc à la base du bouton. Donc, elle fait un trou, elle pond sa petite larve. Et qu'est-ce qu'elle fait, la petite larve, tranquillement pendant tout l'hiver? Elle casse la croûte. Donc, tout ce qu'elle mange, c'est tout ce qui. Les tissus, les canaux qui alimentent en sève le bouton. Et là, comme c'est mangé, eh ben, la sève n'a, le bouton n'a plus de sève et donc il noircit. Et très souvent dessus, vous avez une histoire, ça c'est la prime, hein, c'est deux pour un. Eh bien, vous avez un champignon qui se développe dessus et ça fait comme des petits clous, des micro-clous noirs hein, qui sont plantés sur votre bouton parce que, effectivement, comme c'est en train de mourir, le champignon se développe. Donc, faut pas croire que c'est un champignon qui attaque. Là, dans la plupart des cas, c'est un petit insecte qui a pondu et ce petit insecte, c'est une cicadelle, hein, c'est très joli, c'est très très mignon, mais c'est très très embêtant quand c'est dans le rhododendron. Donc, alors le problème, c'est de limiter la quantité de cicadelle dans le rhododendron, et la meilleure manière de liquider la quantité de cicadelle dans le rhododendron, c'est de mouiller régulièrement, et ils adorent ça en plus. Donc, si vous pouvez faire ça une fois par semaine, c'est génial. Vous pulvérisez par dessous, parce qu'ils sont sous les feuilles, ils sont pas fous, ils savent bien que la pluie tombe sur les feuilles, donc ils se mettent à l'abri sous les feuilles, donc vous pulvérisez, vous injectez, propulsez de l'eau de préférence légèrement.
Au karcher directement, comme ça.
On va peut-être prendre des moyens mesurés, monsieur.
D'accord,
Yann.
Excusez-moi.
On va prendre un pulvérisateur, par exemple, hein, dans lequel on met de l'eau, et puis on met un petit peu de savon noir dans l'eau. Pourquoi le savon noir ? Parce que, parce qu'en fait, le savon noir, il va. D'abord, il attaque la cuticule, la carapace de protection des insectes, donc ça, ils n'aiment pas du tout. Mais en plus, ça va coller les larves et les œufs contre les feuilles, et une fois qu'ils sont bien collés par le savon noir, et ben ils meurent. Donc ça va permettre de limiter les populations. Si vous pouvez faire ça une fois par semaine, grosso modo entre mars et novembre, d'abord, vous verrez que votre rhodo, il adore ça. Hein, il va être tout content parce qu'il va être bien mouillé, les rhodos adorent la flotte. Surtout la pulvérisation sur les feuilles. Et puis d'autre part, les cicadelles vont se retrouver toutes scotché sur le dessous des feuilles, donc on les voit pas, mais elles sont bloquées là, et donc vous aurez beaucoup moins de boutons noirs, et c'est plutôt pas trop mal.
D'accord, voilà, Michel.
C'est du travail de plus au jardin, mais ça fonctionne, quoi.
Yvonne, passez le bonjour à Michel pour nous. À bientôt.
Allez, bonne journée.
Au revoir. C'est parti. Vous continuez à nous poser vos questions à Philippe, 02 99 67 35 35. Encore 20 minutes pour nous joindre. Dépêchez-vous, il y a du monde. Hein.
Vous avez des questions? Il a la main verte. Philippe Munier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, 02 99 67 35 35.
Patrick Bruel sur France Bleu Armorique, ça fera plaisir aux fans, bien évidemment. Tous les deux, on souhaite une belle journée à l'écoute de France Bleu Armorique.
Comme nous avions la tête ailleurs et dans le vent, comme nous mettions du merveilleux le plus souvent,
comme nous avions quelques épis toujours en tête, comme deux fanions qui se balancent sur la fête.
Et ce ballon qui roule et roule et roule encore, et ce grand-père qui perd la poule, mauvais sort.
Et le goûter dans le jardin sous les tilleuls, frérot, jamais, au grand jamais, tu ne seras seul.
Comme nous étions frères de ci, frères de ça,
et aujourd'hui, aujourd'hui, dans nos bras.
Comme nous sommes fiers de ci, fiers de ça, et se regarder dans les yeux, tous les deux.
Ooh, 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 oo
guerriers, marins et cosmonautes, comme nous serions chanteurs, pompiers et rien d'autre.
Comme on ne savait rien du temps qui rend amer, comme la mer n'était pas un mur, mais la mer.
Et cette musique qui tape et tape et tape encore, et ce coup franc que je frappe, tu la sors. Et cette grand-mère qui veille sur nous sous les tilleuls, frère, au jamais, au grand jamais, tu ne seras seul. Comme nous étions frères de ci, frères de ça.
Et aujourd'hui, aujourd'hui, dans nos bras.
Comme nous sommes fiers de ci, fiers de ça. Et se regarder dans les yeux, tous les deux. Nous étions guerriers, marins et cosmonautes.
Comme nous serions chanteurs, pompiers, mais rien d'autre.
Comme nous avions quelques épis toujours en tête. Et se regarder dans les yeux.
Bruel, tous les deux sur France Bleu Armorique.
Vous êtes travailleur indépendant ? À partir du 1er janvier 2020, suite à la suppression du RSI, votre protection sociale évolue. Mais rassurez-vous, ce changement est automatique, vous n'avez rien à faire. Vos droits et vos cotisations restent les mêmes. Seuls vos interlocuteurs changent. Pour votre santé, vous serez rattaché à l'assurance maladie, pour votre retraite à l'assurance retraite, et vous continuerez à verser vos cotisations à l'URSSAF. Pour toute question, appelez le 3648 ou rendez-vous sur sécu-indépendant.fr. 3648, service gratuit, plus prix d'appel.
Lou est une fillette autiste. Sa vie a changé quand Snoopy, un Golden Retriever, chien d'éveil éduqué par Andy Chien, lui a été offert. Snoopy accompagne Lou à l'école, facilite ses relations avec les autres et l'ouvre au monde.
Soutenez Andy Chien pour faire briller les yeux d'autres enfants. Andychien.org.
Vous avez des questions ? Il a la main verte. Philippe Munier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, vous répond jusqu'à 10h.
Allez, on continue vos questions avec Isabelle qui est à Rennes. Bonjour Isabelle.
Bonjour à tous les deux.
Isabelle, comment on peut vous aider ?
Alors, j'ai un bananier que j'avais protégé pour l'hiver, et la tempête de cette nuit l'a couché et l'a cassé.
Oui.
Et je voulais savoir si je pouvais récupérer, parce qu'il est beau, il est vert encore, si je pouvais récupérer le morceau cassé, qui fait quand même un bon mètre 20, et le replanter directement en terre.
Philippe, qu'est-ce qu'on peut faire ?
Alors, la partie qui est cassée, c'est pas à partir du sol, c'est une partie qui est cassée en hauteur.
Oui.
Alors dans ce cas-là, c'est même pas la peine d'y penser, ça marchera jamais.
Bon.
Parce qu'il n'y a pas de racines, ça va, les racines vont pas revenir, ouais.
Non, c'est là pour le coup, la partie en hauteur, bah, en fait, ce qu'il y a maintenant, c'est que donc vous avez un tronc qui est coupé, quoi.
Voilà.
Bon, alors par contre, faut pas oublier de bien protéger ça. Mais en fait, c'est la partie, c'est des bananiers, c'est un musabajo, c'est un bananier d'extérieur.
Oui.
D'accord. Donc, ce qu'il faut bien protéger, c'est la partie au sol. C'est ça qui est vraiment le plus important. C'est de là que redémarrera un tronc. Si celui qui est coupé meurt, ce qui, a priori, ne devrait pas se faire, parce que le musabajo, il résiste jusqu'à moins 10 sans problème. Mais si ça arrivait, de toute façon, ce qui est important, c'est que la base, l'espèce de bulbe que forme le bananier, soit bien préservée, parce que là, vous avez 3, 4, 5 qui repartiront comme des fous au printemps. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, protégez bien la base
et quand vous dites protéger,
avec de la fougère, avec de la paille, avec éventuellement un voile de forçage pour pas que ça se détrempe trop avec les pluies qu'il y a. Et puis la partie aérienne, c'est pas très très grave en fait. Mais malheureusement, c'est vrai que ça se bouture pas.
D'accord. Bon. Dommage.
Ouais, effectivement, c'est les aléas de la nature et du vent et des caprices de la nature. Bon, en tout cas, bon courage.
Mais par contre, pour multiplier le bananier, quand ça va redémarrer au printemps, vous allez avoir plein de petits bananiers qui vont partir. Ouais. Vous attendez tranquille. En fait. Voilà, bah, vous attendez tranquillement le mois de mai, hein, la mi-mai à peu près, qu'il n'y ait plus de risque de froid, etc. Et là, vous pouvez, les rejets qui sont à l'extérieur, ils se décollent très très facilement et on peut les récupérer et les replanter, ce qui fait que ça redémarre sur des nouvelles souches de bananiers.
D'accord, bah écoutez,
à suivre. Ça permet de faire des bananeraies en Bretagne.
Qui est quand même pas mal. Hein.
C'est joli, la banane. Le bananier, c'est magnifique.
Carrément, carrément. Eh ben voilà, belle journée à Rennes, Isabelle. Et puis désolé pour...
Merci de même, et bonne fête de fin d'année.
Merci beaucoup à vous aussi, et puis désolé pour la tête du bananier, pour le coup. Alors, on va rejoindre Jean-Claude à Saint-Malo-Grand. Bonjour Jean-Claude.
Bonjour.
Jean-Claude.
Bonjour à tous les deux.
Eh ben écoutez, bonjour à vous.
Pour toute l'équipe.
Est-ce qu'on... Eh ben oui, parce qu'il y a plein de monde derrière
sûrement,
nous.
Sûrement, oui.
Hein, il y a Christophe, il y a Ambroise qui vous a eu au téléphone. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, dites-moi Jean-Claude?
Alors voilà, j'ai un figuier de violettes qui donne très bien, très belles figues. Et ensuite, il se fait des petites figues et qui restent petites et n'arrivent pas à maturité, bien sûr, avant l'hiver. Qu'est-ce que je peux en faire? Comment on peut, est-ce qu'on peut les consommer? Comment on peut les utiliser? Ou est-ce qu'il faut les enlever?
Philippe.
Alors, ben voilà, vous avez trouvé la bonne solution, c'est la dernière.
Donc,
effectivement, après la récolte, la première récolte, en général au mois de juillet, hein, on l'a fait, des fois c'est un peu tardif, c'est fin juillet, début août, mais après cette récolte-là, vous pouvez sans aucun problème faire une taille sur votre figuier, hein, ce qui fait que la deuxième génération de petites figues ne viendra pas, ça l'empêchera d'arriver, et comme ça permettra au figuier de faire des petites branches, des petits rameaux, qui donneront encore mieux au printemps suivant, et ça vous évitez complètement le stade petite fille qui sert à rien. Et voilà. Si vous n'avez pas le temps de faire la taille, ça peut arriver, hein, ça m'arrive à peu près tous les ans.
Est-ce que c'est obligatoire de faire une taille ou pas?
Non, c'est pas obligatoire.
Pour l'instant, il n'est pas très grand, donc je laisse pousser pour l'instant.
Non, c'est pas obligatoire de faire une taille du tout. Hein. Donc si vous ne la faites pas, par contre, quand vous passez à côté, dès que les petites filles d'hiver arrivent, vous les cassez, vous les coupez.
Pour pas que ça
fatigue le figuier. Mmh.
Pour garder toute l'énergie pour les premières, quoi, en fait.
Voilà.
D'accord. Des fois, au restaurant, on voit des petites figues comme ça qui sont dans les assiettes.
Oui, mais ça, c'est des figues sauvages, en fait.
Ah, d'accord.
Voilà.
Elles sont vraiment sauvages.
Oui, les toutes petites figues qu'on trouve en magasin bio ou au restaurant dans certains trucs, c'est des petites figues sauvages, oui,
d'accord,
tout à fait.
Okay.
Et qui sont vraiment très petites, mais qui ont un parfum extraordinaire.
Ouais. Je les ai enlevées et puis je vous pose la question après, vous voyez.
Vous aviez un bon pressentiment.
C'est ça, l'instant était le bon, Jean-Claude.
Voilà, merci.
À bientôt.
Et bon Noël à toute l'équipe.
À vous aussi, de très belles fêtes, Jean-Claude.
Merci.
On va se rendre maintenant à Pordic avec Bernard. Bonjour Bernard.
Oui, bonjour à tous.
Bernard,
bonjour à tous.
Vous, et qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ce matin?
Voilà, alors j'ai deux poiriers sur le terrain, quoi, dont un doyenné du comice et un conférence. Et sur le doyenné du comice, là, j'ai des pousses qui se dressent vers le ciel, qui font bien 50 cm de long. Et je me demandais s'il fallait les couper. Et s'il faut les couper, quand est-ce qu'il faut les couper?
Ah, est-ce qu'on rabat par le haut, Philippe? Si oui, quand?
Alors, toutes les branches qui partent trop verticales, effectivement, on a tendance à appeler ça des gourmands, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Mais c'est vrai que la sève, elle a toujours tendance à prendre le chemin vertical. Donc plus c'est droit et plus la sève s'en va. Et donc pendant qu'elle part dans ces pousses-là, elle ne s'occupe pas des branches pour faire des fleurs et des fruits. Et ce n'est pas bien.
C'est pas
donc ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est de supprimer à la base toutes celles qui servent à rien. Et par contre, il faut bien réfléchir à son truc avant d'attaquer avec le sécateur. Le temps qu'on affûte le sécateur et qu'on les infecte, par exemple, et bien de bien réfléchir et de se dire, est-ce qu'il n'y en a pas une qui va pouvoir me servir de remplacement pour une vieille branche? Et dans ce cas-là, il faut que je la garde. Je la garde encore, par exemple, un an. Ouais. Et je vais légèrement l'incliner, parce que je vous dis, les branches verticales, elles prennent toute la sève. Mais si je l'incline, par contre, la sève va circuler beaucoup plus lentement. Mmh. Et ça va, du coup, fabriquer des fleurs et après, derrière, des fruits. Donc, si j'en garde une ou deux pour remplacer des vieilles branches, eh bien, je vais garder les deux plus belles et je vais les incliner légèrement, carrément en parallèle de celles que je veux remplacer, et ça va me permettre dans un an ou deux ans de remplacer une vieille branche par une neuve qui sera plus productive.
D'accord. Donc, mais pas forcément tout, ça dépend des besoins.
Voilà, on rabat tous les petits, tous ceux qui sont, voilà, et puis s'il y en a un ou deux qui peuvent me servir, eh bien, je les garde, mais en les inclinant absolument, pour pas qu'ils continuent de piquer toute la sève.
Et on incline avec quoi? quoi avec
alors, du en général, fil, qu'on fait, on, voilà, on prend un petit bout de raffia et puis on tire et on la met carrément en parallèle de celle qu'on veut remplacer. D'accord. Comme ça,
qu'elle se courbe gentiment avec le temps.
Voilà, et ça va se courber tranquillement. Et puis comme elles sont toutes jeunes, donc elles sont toutes flexibles et donc elles vont pouvoir bien prendre la forme tout de suite.
D'accord. Ben voilà pour le coup, Bernard.
Ok, je vous remercie.
Mais je vous en prie, à très bientôt.
Joyeux Noël et bonne année à tous.
De très belles fêtes à vous à l'écoute de France Bleu Armorique. À bientôt, Bernard. Au revoir.
Bonne journée, au revoir.
Allez, on va prendre encore un ou deux appels parce que le temps file vite. N'hésitez pas à nous appeler 02 99 67 35 35. Ça sera vraiment les tout derniers. Il faudra aller un petit peu rapidement. Mais on sera ravis de vous répondre.
Vous avez les questions ? Il a la main verte. Philippe Munier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, 02 99 67 35 35.
Niagara, les Rennais, quand la ville dort, pour vous accompagner cette matinée. Et puis, restez bien avec nous, car à partir de 10h, je vais vous donner plein d'idées de sorties à l'occasion des fêtes de fin d'année avec les offices de tourisme de Bretagne.
Sur France Bleu Armorique, quand la ville dort.
Vous avez les questions ? Il a la main verte. Philippe Munier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, 02 99 67 35 35.
Le temps passe vite et ça sera notre dernier appel de la semaine. Évidemment, Philippe revient la semaine prochaine. À penser, on rejoint Laurent. Bonjour Laurent.
Monsieur, bonjour.
Eh bien écoute, appelez-moi Yann, on est là pour vous, Laurent, avec
alors,
Philippe.
Yann, bonjour.
Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, Laurent ?
Eh bien, écoutez, j'ai un effilier germanique que j'ai depuis une douzaine d'années, qui me faisait des fruits superbes.
Oui.
Mais depuis 2 ans, j'ai une bonne partie des fruits qui deviennent tout noirs, très durs et immangeables, bien évidemment.
Ah, gros problème, Philippe.
Gros problème, oui.
Gros problème.
Bah, pour un effilier germanique, c'est normal, c'est une grosse problème. Donc, effectivement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si vous aviez regardé votre néphilier au mois d'avril, quand il est en fleur, bah, vous auriez certainement vu qu'il y avait des branches, des jeunes fleurs qui desséchaient brutalement parce qu'il y a la moniliose sur votre néphilier. C'est donc une maladie et un champignon qui se développe souvent sur les pommes, sur les poires, sur les coings éventuellement, mais aussi, malheureusement, sur les néphiliers germaniques et même d'ailleurs sur les néphiliers japonais, hein, ça arrive. Donc, le problème, c'est que du coup, ça oblige à faire des traitements préventifs. Alors, j'ai parlé plusieurs fois à ce micro d'un traitement préventif à base d'huile essentielle de sarriette vivace, qui fonctionne très très bien, hein, qui est un traitement qui fonctionne aussi bien pour la cloque du pêcher que pour la moniliose des arbres à pépins et des arbres à noyaux. Donc, soit vous réécoutez dans les podcasts, soit rapidement, je redonne la composition.
Ouais, allez, rapidement.
Alors, très rapidement, donc on met 20 gouttes d'huile essentielle et pas plus, dans 20 gouttes d'huile de table et pas plus, et avec 5 gouttes de produit vaisselle bio. D'accord. Évidemment, tant qu'à faire, on mélange tout ça et on met ça dans 10 litres d'eau et on pulvérise juste juste avant la floraison et puis juste après la floraison, mais entre les deux, on laisse la floraison se passer et la nouaison se faire, et derrière, normalement, si vous refaites ça une fois par mois, vous aurez des fruits sans moniliose et sans donc petits fruits tout noirs, tout desséchés et tout impropre à la consommation.
Ben voilà, Laurent, c'est à suivre. Allez, une toute dernière question, je vous donne 20 secondes pour répondre, ça va être facile, vous allez voir. C'est la question de Marie de Montfort-sur-Meux qui a une agapante. Elle se demande quel entretien apporter en hiver. En 20 secondes, qu'est-ce qu'on peut dire?
Éventuellement, s'il fait froid, on la taille, sinon on lui fiche la paix.
Et ben voilà, ça a duré 5 secondes et c'est très bien. Merci beaucoup, Philippe. On retrouve
un petit livre
ou
pas?
Allez,
un petit livre. Allez, c'est magnifique.